VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du vendredi 29 mai 2015. À la une ce soir.
Un nouveau président entre en fonction au Nigeria. Le pays est en proie à de sérieux défis, dont l'insurrection de la secte islamiste Boko Haram.
Au Burundi, des protestations émaillées de violence font au moins un mort et deux blessés aujourd'hui dans la capitale, Bujumbura.
Et le sang a encore coulé à Bagdad. Deux explosions ont fait 15 morts et plusieurs dizaines de blessés en plein cœur de la capitale irakienne.
Le rapprochement américano-cubain se poursuit. Washington annonce que l'île communiste de la Caraïbe n'est plus sur sa liste noire de pays soutenant le terrorisme.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Le nouveau président nigérian, Muhammadu Buhari, a prêté serment aujourd'hui. Il s'est aussitôt engagé à relever les énormes défis qu'affronte le Nigeria, au premier rang desquels figure la rébellion islamiste de Boko Haram. Idriss Fall.
Le Nigeria affronte des défis énormes, a déclaré le tout nouveau président qui a promis de les prendre à bras-le-corps devant une foule et de nombreux dignitaires à Abuja. Muhammadu Buhari a ajouté que Boko Haram est un groupe de gens fous et sans Dieu et qui sont aussi éloignés de l'islam. Il a indiqué qu'il mettrait en place un nouveau centre de commandement militaire à Maïdougouri au lieu d'Abuja pour les combattre. Il a aussi qualifié de honte nationale les problèmes d'électricité du premier producteur pétrolier d'Afrique. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en décembre 1983, Muhammadu Buhari en avait été chassé 20 mois plus tard par un autre coup d'État. Ironie de l'histoire, Buhari, 72 ans, à la cérémonie d'investiture, a serré la main à Shehu Shagari, qu'il avait renversé en 1983, et celle du général Ibrahim Babangida, qu'il avait évincé du pouvoir en 1985. Il avait fait une traversée du désert et a essuyé trois échecs électoraux avant de finalement gagner les élections le 28 mars dernier.
Quatre soldats tchadiens et 33 combattants islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram sur une île du lac Tchad mercredi, a déclaré aujourd'hui l'armée tchadienne. Nathalie Barche.
De violents combats ont eu lieu entre Boko Haram et les forces armées du Tchad mercredi à Choua, une île tchadienne du lac Tchad, selon le porte-parole de l'armée, Azem Bermandoa Aguna, précisant que 33 djihadistes ont été abattus. Du côté de l'armée tchadienne, 4 soldats sont morts et 4 blessés, d'après le colonel, qui ajoute que depuis jeudi, l'aviation mène des raids aériens sur les positions des extrémistes sur le lac. Depuis 5 mois, quelques 5000 soldats tchadiens participent à une opération régionale contre le groupe islamiste. De violents combats ont eu lieu depuis janvier dans le nord-est du Nigeria et également sur les territoires nigériens et tchadiens. Les troupes du Tchad interviennent aussi dans le nord du Cameroun, où les djihadistes opèrent depuis au moins 2 ans. N'Djamena a enregistré de nombreuses pertes dans le cadre de cette opération. 71 soldats tchadiens ont péri dans les affrontements.
Au Burundi, 2 grenades ont explosé ce vendredi à Bujumbura, toujours en proie à la contestation populaire contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Au moins 1 manifestant a été tué par la police, nous dit Jacques Aristide.
Plusieurs quartiers de la capitale burundaise, ébranlés par des tirs nourris d'armes automatiques jusque tard dans la soirée d'hier. D'après des témoignages recueillis par l'AFP à Musaga, Chibitoke, Bouiza, la police a tenté de disperser des manifestants qui s'apprêtaient à organiser leur rassemblement. Un véhicule privé a été incendié pendant la nuit à Bouiza. Ce vendredi matin, la police était de nouveau déployée dans ces mêmes quartiers et ratissait les ruelles. Des militaires participaient aux opérations et faisaient également des tirs de sommation. Plus d'une trentaine de personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est doivent se retrouver ce dimanche à Dar es Salaam pour tenter de sortir le Burundi de la crise.
Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé que le dialogue politique entre les parties burundaises sera suspendu ce week-end. Un autre sommet régional est prévu dimanche en Tanzanie.
De son côté, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara promet de quitter le pouvoir après 2 mandats s'il est réélu en octobre. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission de l'Union africaine, Kossazana Dlamini Zuma, après un entretien avec M. Ouattara en marge de la 50e réunion annuelle de la Banque africaine de développement à Abidjan. La constitution ivoirienne interdit à M. Ouattara de briguer un troisième mandat.
Le président du Burkina Faso prochainement en France, du 31 mai au 7 juin, Michel Cafondo effectuera sa première visite officielle dans l'ancienne puissance coloniale. L'objectif, d'après la présidence, est de renforcer la coopération entre les deux pays. Michel Cafondo va s'entretenir avec son homologue français, François Hollande, le 1er juin au Palais de l'Élysée.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila lance des consultations aujourd'hui en vue d'un dialogue politique. Le calendrier électoral devrait être au menu des discussions, a indiqué à l'AFP un responsable sous couvert d'anonymat. Estimant qu'il s'agit d'un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir illégalement, une partie de l'opposition congolaise a d'ores et déjà rejeté ce dialogue politique.
En Libye, le groupe État islamique a pris le contrôle de l'aéroport de Sirte après le retrait hier soir des combattants de la coalition des milices de Fajr Libya. C'est du moins ce qu'annonce un responsable libyen et l'organisation djihadiste citée par l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À la FIFA, une organisation en plein scandale, Joseph Sepp Blatter a été reconduit aujourd'hui pour un nouveau mandat. Bagassikoura.
Oui, il a été reconduit à la tête de l'instance mondiale du football. C'est son cinquième mandat, mais il a été contraint à un second vote qui n'a pas eu lieu puisque le prince Ali s'est retiré. Lors du vote, Blatter, âgé de 79 ans, n'a récolté que 133 voix et le prince Ali a obtenu 73 voix. Il n'y avait que 209 bulletins distribués, 206 étaient valides selon la FIFA. Il fallait 140 voix pour être élu au premier tour. Hier encore, Sepp Blatter a tenté de justifier son bilan et qu'il ne pouvait pas surveiller tout le monde, parlant du scandale de corruption qui secoue son organisation. Les appels à la démission du président sortant de la FIFA se sont multipliés depuis ces derniers jours et au finish, ce résultat, un cinquième mandat pour Blatter.
Une double explosion dans deux hôtels de luxe de Bagdad ont fait au moins 15 morts et 42 blessés, ont indiqué aujourd'hui des sources officielles dans la capitale irakienne. Selon la police, les terroristes ont fait exploser deux voitures piégées par télécommande. Les hôtels étaient pourtant bien protégés.
En Arabie Saoudite, au moins 4 personnes ont été tuées lors d'un attentat suicide dans une mosquée chiite. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion qui s'est produite à Dammam, dans l'est du royaume. La semaine dernière, 21 fidèles ont trouvé la mort dans des conditions similaires à Katif, sur la côte du Golfe. De telles attaques sont rares en Arabie Saoudite, un pays qui partage une vaste frontière avec deux pays instables, l'Irak et le Yémen.
Le taux de croissance de l'économie américaine revu à la baisse pour le premier trimestre. Selon le département du commerce, la contraction enregistrée de janvier à mars 2015 était de 0,7%. La raison, un hiver rigoureux, la baisse des cours du brut et un dollar trop fort. Les économistes prédisent malgré tout une reprise prochaine de la croissance économique.
Cuba ne fait plus partie des pays considérés par les États-Unis comme soutenant le terrorisme. La décision annoncée aujourd'hui par le département d'État américain devrait faciliter l'accélération des pourparlers sur l'ouverture d'ambassades des deux pays à Washington et La Havane. L'administration Reagan avait placé Cuba sur cette liste noire en 1982 à cause de son soutien aux séparatistes basques de l'ETA et aux rebelles FARC en Colombie.
Des femmes interdites de prendre le volant. Vous pensez peut-être à l'Arabie Saoudite, mais cela se passe dans une grande capitale occidentale. Un membre de la communauté Belns de Londres, des juifs ultra-orthodoxes, confiait à l'AFP que sa branche du mouvement né en Ukraine au XIXe siècle a choisi d'imposer ce style de vie. Peu importe les critiques, les mères ne sont pas autorisées à conduire leurs enfants à l'école en voiture, sinon l'admission leur sera refusée, a-t-il dit. Les critiques fusent de partout. Le gouvernement britannique promet une enquête.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui, ce soir, est présentée par Jacques Aristide.
L'Afrique, vulnérable au ralentissement de l'économie chinoise, c'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'agence de notation Standard & Poor's, ou S&P en un mot. Le danger découle de la trop grande dépendance, voire la surexposition des pays de l'Afrique subsaharienne à la Chine depuis cette dernière décennie, d'après S&P. Cette dépendance se fait tant en matière d'exportation qu'en investissements directs à l'étranger. La chute des prix des matières premières, affectant nombre de pays africains, est liée en partie à la baisse de la croissance chinoise. En République démocratique du Congo, accord entre ProCredit Bank Congo et le groupe kényan Equity Bank pour le rachat de 79% d'actions dans l'établissement bancaire congolais. C'est ce que rapporte Radio Okapi, qui indique que les deux firmes attendent pour l'heure le feu vert des banques centrales de la RDC et du Kenya. Ce rachat fait partie du programme d'expansion d'Equity Bank à travers 10 pays africains. Aussitôt la transaction approuvée, Equity deviendra du coup le plus grand actionnaire de ProCredit. Les actions ont été vendues par la Société belge d'investissement pour les pays en développement et la fondation Doen d'Allemagne. Et puis, l'activité économique s'est contractée aux États-Unis entre janvier et mars pour la première fois depuis un an, plombée par un hiver rigoureux et l'appréciation du dollar, rapporte l'AFP, citant la deuxième estimation publiée ce vendredi par le département du commerce. Au premier trimestre, le produit intérieur brut américain a reculé de 0,7% en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières.
Voilà pour la Minute Éco et on remercie chaleureusement Jacques Aristide.
Alors, je devrais accueillir tout aussi chaleureusement Bagassi Koura au studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Et quelqu'un qui se sent vraiment content aujourd'hui, Joseph Sepp Blatter. À 79 ans, il vient d'être reconduit à la tête d'une organisation en crise, la FIFA.
Ben, c'est pas tout le monde qui gagne son cinquième mandat. Hein. Sepp Blatter a donc été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de l'instance mondiale du football. Mais il a été contraint à un second vote qui n'a pas eu lieu puisque le prince Ali, lui, s'est retiré lors du vote. Blatter, âgé de 79 ans, n'a récolté que 133 voix et le prince Ali a obtenu 73 voix. Il y avait, il faut le dire, 219 bulletins distribués, 206 étaient valides et il fallait, Chérubin, 140 voix pour être élu dès le premier tour. Et généralement, Blatter, il avait ça lors des élections passées.
Oui, à souligner que les associations de foot de l'Afrique ont malgré tout, malgré cette crise, réaffirmé leur soutien à Sepp Blatter.
Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que Sepp Blatter, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas impliqué dans le scandale en cours.
Il a d'ailleurs promis de réformer la FIFA et à la fin de son mandat, de laisser une organisation encore plus forte qu'aujourd'hui.
Encore plus forte. Et peut-être c'est ce qui a convaincu les délégués africains et puis aussi les autres délégués. Et les appels à la démission se sont multipliés ces derniers jours, dont notamment celui de Michel Platini, qui est le patron du football européen. Et au finish, on a ce cinquième mandat pour cette Blatter.
Un appel encore plus fort ce matin de David Cameron, le premier ministre britannique, mais ça n'a pas marché. Le Mali dévoile la liste des joueurs retenus pour jouer le premier match qualificatif pour la CAN 2017.
Oui, le sélectionneur du Mali, le français Alain Giresse, a dévoilé une liste de 24 joueurs pour le match contre le Soudan du Sud le 13 juin à Bamako. Les Aigles devront se passer des services de plusieurs joueurs majeurs en raison de blessures. Il s'agit du gardien de but Mamadou Samassa de Guinga, le défenseur Mola Wage de Udinese en Italie, le milieu de terrain Ahmed Tongo Toumbia de Toulouse en France, les attaquants Cheikh Tidiane Diabaté de Bordeaux et Mustapha Yatabare de Trabzonspor en Turquie. En revanche, le défenseur Ousseini Cissé de Dijon en France, âgé de 24 ans, va honorer une première sélection.
L'affiche de la grande finale du championnat de basket nord-américain NBA est désormais connue. C'est Golden State Warriors contre Cleveland Cavaliers.
Eh bien, le premier match de cette finale aura lieu le 4 juin prochain. En attendant, les premières têtes tombent dans la Ligue. Les Chicago Bulls, éliminés au deuxième tour des playoffs, se sont séparés de leur entraîneur Tom Thibodeau, en place depuis 2010. La décision des Bulls était largement anticipée en raison des problèmes récurrents entre Thibodeau et ses dirigeants.
Voilà pour les sports ce vendredi soir. Merci Bagassi Koura.
Merci Chérubin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Notre première escale, Morgane, c'est au Burundi.
Oui, dialogue politique suspendu au Burundi avant le sommet régional de dimanche à Dar es Salaam. Les Nations Unies espèrent que le sommet régional prévu dimanche en Tanzanie donnera un nouveau souffle aux négociations, toujours bloquées autour de la question du troisième mandat du président Nkurunziza. Les opposants à ce troisième mandat, n'entendent pas grand-chose de ce sommet, comme l'explique Nicolas Pinault, Pierre Claver Mbonimpa de l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues.
Ça fait quelques jours que nous dialoguons avec le gouvernement, avec quelques partis d'opposition, mais on n'a pas traité beaucoup de choses parce qu'on a seulement parlé sur l'ouverture des médias, sur l'harmonisation des manifestations, sans toutefois toucher sur la question cruciale qui est la cause. Je dirais qu'on a commencé à étudier les conséquences sans commencer à étudier les causes, ce qui n'est pas possible. Alors je dirais que nous n'avons pas eu de consensus, il n'y a pas eu de communiqué, c'est-à-dire qu'on a suspendu pour laisser la place à la conférence des chefs d'État. La raison pour laquelle on a dû suspendre les travaux jusqu'à ce que cette rencontre des chefs d'État se prononce. Nous tous, nous sommes en suspect et nous attendons ce qu'ils vont nous dire.
Mais attendez-vous vraiment quelque chose de positif de ce sommet de Dar es Salaam?
Je sais que presque les présidents africains, ils ont même ambition de briguer, de rester au pouvoir très longtemps. Et quelquefois, les uns soutiennent les autres, mais quand même voir avec les déclarations de la communauté internationale, mais comme les Européens ont dit que la question va trouver une réponse juste à partir des Africains même, là nous attendons, mais franchement, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'espoir parce que quelques présidents entrés, eux aussi, ils ont déjà dépassé 2 mandats, 3 mandats et ils peuvent même y rester, raison pour laquelle ils peuvent soutenir Nkurunziza.
Pensez-vous qu'au moins c'est une des demandes fortes de la communauté internationale, les élections vont être reportées de plusieurs mois?
Bon, je crois même que c'est la seule solution parce que les élections prévues le 5 ne peuvent pas être possibles. Même, je ne pense pas que la population burundaise pourra accepter à ce qu'il y ait les élections pour, je dirais, en seule partie au pouvoir avec ses acolytes proches. Raison pour laquelle, pour moi, je considère que reporter au moins pour 6 mois, même pour une année, serait une bonne chose pour pouvoir préparer les autres partis pour qu'ils participent dans les élections et comme ça, on aura des élections paisibles et apaisées.
Pierre Claverne Bonimpa de La Prado, Jean à Bujumbura.
Aujourd'hui dans Sahel Plus, reportage au Mali, rencontre avec des migrants survivants qui ont tenté au péril de leur vie de traverser la Méditerranée.
Le départ était bon, mais on a eu un problème, le bateau a cassé. Mais alhamdoulilah, on a eu les pêcheurs qui nous ont sauvés.
Sahel Plus, c'est aujourd'hui à 18h10, temps universel.
Dialogue politique lancé en République démocratique du Congo sans une partie de l'opposition. Seuls l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et quelques partis apparentés sont parties prenantes aux consultations entamées ce vendredi par le président Joseph Kabila. De quoi est-il question dans ce dialogue? Eddy Isango a posé la question au porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mendéo Malanga.
Le président est en pleine consultation et certains appellent cela dialogue politique, d'autres l'appellent consultation. Je ne sais pas pourquoi vous voulez séparer consultation et dialogue. Il parle avec les acteurs politiques et les civils.
Il y a eu des concertations politiques en 2013, dont les derniers gouvernements d'Union nationale et l'un des résultats en quoi le dialogue entamé sera différent.
Il n'a jamais été dit qu'après les concertations, le président ne parlerait pas avec ses compatriotes. Il a dit que le dialogue politique est un processus qui est permanent, tous les jours, avec tous les autres partenaires de la vie publique.
Sous quel format se tient ce dialogue? Est-ce que tout le monde y est convié en même temps?
Le président président de la République reçoit ses compatriotes, reçoit les responsables de différentes structures politiques et sociales, il reçoit les gens. Les gens lui parlent, lui leur parle, il les écoute, ces gens l'écoutent aussi. On parle du Congo, des Congolais.
Mais une partie de l'opposition ne veut pas de ces dialogues, monsieur le ministre.
Nous n'avons jamais dit que nous cherchions l'unanimisme. Nous ne sommes pas un pays de l'unanimisme, mais d'ailleurs, ce pays-là n'existe pas au monde. Nous n'avons pas inventé la roue. Partout au monde, lorsqu'il y a une initiative de cette nature, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ceux qui sont pour viendront, ceux qui sont contre ne viendront pas. L'essentiel, c'est que nous sommes en train de nous parler.
L'UDPS, qui tient à ces dialogues, pense que cette discussion est une occasion pour elle de reprendre le pouvoir, car pour elle, vous le savez, Etienne Tshisekedi a remporté l'élection de 2011.
C'est l'UDPS qui a pris l'initiative, le président a répondu. Donc, c'est assez bizarre que celui qui prend l'initiative commence à parler de cette manière-là. Puisque l'initiative du président a été les concertations dont vous avez parlé, qui ont produit leurs effets. Nous sommes en train de mettre en œuvre les résolutions d'une concertation.
Est-ce que la candidature du président Joseph Kabila pour un troisième mandat ne sera-t-elle pas remise sur la table comme le pense l'opposition qui s'oppose à ces dialogues?
Il n'est pas prévu déjà un ordre du jour. Le président reçoit des gens. Il faut attendre les devins pour savoir qu'on va parler de ce que vous appelez glissement, etc. Des gens qui ont peur même du fait même que les Congolais se rencontrent. Il faut bien que les Congolais se rencontrent pour parler de ce qui les intéresse. Personne ne va forcer quelqu'un à parler de ce qu'il n'a pas envie d'entendre.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
Demain, samedi 30 mai, sera la journée d'hommage aux martyrs au Burkina Faso. Le gouvernement de transition veut rendre un hommage à ceux qui sont morts lors de l'insurrection d'octobre 2014. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a dressé une liste de 34 victimes pendant l'insurrection et déplore que rien ne soit prévu pour plus de 600 blessés. Dramane Ouédraogo est le président de l'association des victimes de l'insurrection.
C'est le principe que les gens utilisent pour cette commémoration qui était quand même une difficulté pour nous à accepter. Parce que déjà que nous-mêmes, sur le plan non seulement sanitaire, il y avait des problèmes. Il y en a qui sont toujours dans, au niveau des salles d'opération. Nous qui sommes vivants et qui non seulement devaient, ne serait-ce comment, désintéresser ou alors assister sur le plan sanitaire et aussi non seulement qu'ils donnent quelque chose aux différents blessés pour qu'ils continuent de se soigner. S'il faut découvrir les morts, ça, je vois que c'est un peu à mal donne, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous vous dites au sujet de cette polémique soulevée par le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme, qui dit qu'il ne va pas participer aux manifestations parce qu'il n'y a pas de justice?
Ben oui, parce que en fait, le MBDHP, c'est quand même nos collaborateurs parce que nous avons fait du chemin ensemble et nous avons déposé des plaintes ensemble sur les blessés de l'insurrection et les victimes de l'insurrection en général.
Depuis quand?
Ça s'est passé il y a plus d'un mois et c'est avec le MBDHP qu'on a déposé cette plainte-là au niveau du parquet.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que cette journée d'hommage soit acceptable pour vous?
Considérer tous ceux qui sont sortis ce jour-là et qui ont non seulement d'autres morts et nous autres blessés, que nous soyons pris de sorte à ce que nous sachions que notre combat n'a pas été un combat vain. Parce qu'actuellement, il y a d'autres peut-être qui récupèrent ce combat et puis qui l'utilisent à d'autres fins, alors que nous, ce que nous on demande simplement, nous sommes tellement dans un système non seulement économique, non seulement déréglé, qui fait que ce qui semble être pour certaines autorités quelque chose de pas grand-chose, pour nous est très considérable parce qu'il n'y a rien. Il y a le minimum même pour survivre, c'est vraiment la catastrophe. Et si nous sommes sortis et si nous avons risqué nos vies pour actuellement nous retrouver en train de ramer en contresens, alors ça pose problème. C'est pour ça que je trouve que cette journée, ça vient nous amener à nous rappeler de nos collègues qui sont morts dans ce combat, mais en même temps que de toute façon, décorer quelqu'un à titre posthume, c'est bien pour ceux qui sont en train de coiffer la manifestation. Mais nous qui sommes en train de souffrir toujours, nous voyons que ces décorations et tout ça à titre posthume n'ont aucun sens.
Dramane Ouédraogo est le président de l'association des victimes de l'insurrection.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya, et Fada.
Défis et perspectives de la BAD, la Banque africaine de développement, après l'élection d'un nouveau président en la personne du Nigérian Akinwumi Adenisha. Jean-Roger Bion a joint à Abidjan l'économiste Maurice Saï.
Bon, moi j'estime que c'est un rituel. Celui qui est parti a fini son mandat, il est remplacé par un autre, mais la BAD continue. Ça veut dire que la politique de la BAD restera la même. C'est pas parce qu'il y a un nouveau président que la politique de la BAD va changer.
Alors Monsieur Adenisha est précédé d'un impressionnant curriculum vitae. Vous pensez que ça pourra jouer dans les prochains challenges?
En tout cas, moi je ne crois pas à son aura personnelle, parce que la BAD c'est une institution, c'est pas l'affaire d'un seul bonhomme. C'est pas sa banque. Il est directeur d'une institution collective et donc qui a une politique qu'elle défend depuis des années, qui n'est pas très loin de celle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire d'ailleurs, et c'est cette politique-là qui va continuer.
Alors le fait qu'il vienne de la première puissance économique africaine peut-elle ajouter quelque chose à son travail?
Peut-être dans ses rapports avec d'autres banquiers, avec d'autres pays, mais fondamentalement, par rapport à la BAD, je ne crois pas que ça puisse jouer un grand rôle.
Alors quels sont les défis auxquels, selon vous, pourra-t-il être confronté maintenant?
Mais les défis, c'est le financement du développement en Afrique. Parce que beaucoup d'États parlent d'émergence, mais l'émergence suppose des capitaux abondants, des ressources financières extrêmement importantes, ce que n'a pas toujours l'Afrique. Et donc, si la BAD peut continuer à financer des programmes de développement, je pense que ce serait une bonne chose.
Pensez-vous qu'il y ait des priorités dans le mandat qu'il va entamer en septembre?
Si vous me demandez mes priorités à moi, j'aurais dit le financement du social, parce que la misère est grandissante, la pauvreté a bondi de plusieurs pas en Afrique, donc il voudrait mieux peut-être combattre la pauvreté. Mais combattre la pauvreté, c'est aujourd'hui le langage du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à travers l'initiative EPTE. Si c'est la même chose, je crains fort qu'il n'y ait pas d'aménagement substantiel.
On écoutait l'économiste ivoirien Maurice Saï.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Un nouveau président entre en fonction au Nigeria. Le pays est en proie à de sérieux défis, dont l'insurrection de la secte islamiste Boko Haram.
4 soldats tchadiens et 33 combattants islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram sur une île du lac Tchad mercredi. A-t-on appris aujourd'hui auprès de l'armée tchadienne.
Au Burundi, 2 grenades ont explosé ce vendredi à Bujumbura, toujours en proie à la contestation populaire contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat.
Et au moins un manifestant a été tué par la police burundaise. Les Nations Unies ont annoncé que le dialogue politique entre les parties burundaises sera suspendu ce week-end.
Et de son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara promet de quitter le pouvoir après 2 mandats s'il est réélu en octobre.
Joseph Sepp Blatter, malgré la crise qui traverse la FIFA, a été réélu aujourd'hui pour un 5e mandat à la tête de l'organisation dirigeante du football mondial.
Une double explosion dans 2 hôtels de luxe de Bagdad ont fait au moins 15 morts et 42 blessés, ont indiqué aujourd'hui des sources officielles.
Et l'émission touche à sa fin.
À la mise en onde ce soir, Lionel et Gaïma, présentation Morgane Guériec et Chérubin Dorsil.
Il faut surtout remercier notre ami Tian Wang à la console technique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et ne l'oubliez pas, chers amis, on est ensemble 24 sur 24 sur VOA News, plutôt voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.